aristocrates à la lanterne, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qui entretiennent des cadins. La 300 ans qu'on nous écrase.
Henri Guillemin, Silence aux pauvres. Aux éditions Arléa, édité en avril 1989. La convention a tenu sa première séance le 21 septembre, et Danton prononce un discours où figurent les mots-clés qu'exige le moment. Peuple français, sois rassuré, voici la République. Tu n'as que des bienfaits à attendre d'elle, et quant aux propriétés, quelles qu'elles soient, elles seront éternellement respectées, protégées. Cet adverbe est inusuel dans le langage juridique. Mais, pour l'apaisement des esprits, au lendemain d'une aventure pareille à celle du 10 août, rien ne saurait être excessif dans la solennité des promesses concernant la fortune acquise, sa liberté d'accroissement et sa pleine sécurité.
Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates.
Avant propos, j'avais pensé à Éloge des vaincus. Mais il fallait avoir lu mon petit texte pour comprendre ce titre-là. Les vaincus ? Ceux que liquida le 9 Thermidor, avec en 48 heures la plus belle fiesta de la guillotine, plus de 110 têtes coupées le 10 et le 11. Ceux qui avaient cru en la révolution, en une révolution où non pas seulement seraient changées les structures, mais d'abord et avant tout serait modifié le regard de l'homme sur la vie et l'emploi de ses jours, immédiatement limpide, en revanche, ce titre, Silence aux pauvres. Deux raisons m'ont comme poussé par les épaules pour m'édicter ce précis des événements qui se déroulèrent chez nous de 1789 à 1799, ce résumé didactique de la Révolution. L'autre mobile qui s'est emparé de mon stylo pour lui donner la fièvre, c'est l'affaire de la propriété, dont je trouve qu'on l'oublie un peu trop dans les récits et commentaires usuels sur la Révolution. Ce qu'il faut savoir, et capitalement, c'est que dès la réunion des États généraux, une grande peur s'est déclarée chez les honnêtes gens. Formule, je crois bien, que nous devons à Lafayette. Honnêtes gens...
Ça veut dire quoi, ça ?
Gens de bien. Gens qui ont du bien. Des biens. Au vrai, les possédants, face à ceux que l'on va exclure du droit de vote et de la garde nationale, les non-possédants, les gens de rien.
Quatrième état, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi, la cariatide, comme dit Victor Hugo, sur le dos desquels le festin des riches se passait.
Robespierre étant des rares, des très rares révolutionnaires à souhaiter chez les exploités, des champs et des villes, une conscience de classe. Il n'y parvient pas. Trop tôt. Attendons l'expansion industrielle du siècle suivant et les concentrations de prolétaires. En revanche, chez les gens de bien, elle est là, dès 89, la conscience de classe. Vivante, je vous l'assure, lucide, effarée, agressive. Il n'est pour s'en rendre compte à ravir que de regarder et d'écouter Madame de Staël, Sieyès, Barnave et 100 000 autres. Et tout va se jouer sur ce sujet même, avec l'épouvante, croissante pendant plus de 5 ans, de ceux qui ont, en présence de ceux qui n'ont pas, qui n'ont rien, et qu'il s'agit à tout prix et constamment de surveiller et de contenir. D'abord par le déploiement avertisseur de la force, le 14 juillet 1790, ensuite par son usage crépitant et persuasif, le 17 juillet 91.
Non, 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 de nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne.
Non, 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 de nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne.
Génère le nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne.
Nom de Dieu.
Je veux parler sans gêne. Qu'aucun filou peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Qu'aucun filou peureux nom de Dieu, vous m'appelez canaille.
Henri Guillemin aime bien Robespierre. On s'en rend compte dès les premières lignes. En revanche, il a quelques comptes à régler avec certains historiens.
Ce qu'il faut savoir, disait Michelet, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 1789. Oui, la révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Michelet travaillait dans le genre épico-lyrique et s'abandonnait volontiers à des transports, dont nous verrons d'autres exemples attendrissants. En fait, s'il se produit en 1789 des événements considérables dans la vie politique française, c'est d'abord parce que les finances du royaume connaissent un tel délabrement que ce qui s'annonce comme imminent, ce n'est pas autre chose que la banqueroute. Non seulement plus de soldes pour les officiers, plus de traitements pour les fonctionnaires, mais, ce qui est infiniment plus grave et plus inadmissible encore, les créanciers de l'État, et avant tout les grandes banques, voient venir une catastrophe, à tout prix la conjurer. Et c'est bien pourquoi Rivarol, en contre-révolutionnaire, écrira plus tard en ricanant « La révolution a été l'œuvre des rentiers ». Soyons plus sérieux que Michelet et que Rivarol. Il y a des causes multiples et conjointes qui expliquent, ou du moins éclairent, la très intéressante et très remarquable année 1789 en France. Face à la richesse immobilière, c'est-à-dire les châteaux et les vastes domaines aux mains des nobles, s'est constituée au XVIIIe siècle une richesse mobilière de capitaux liquides que se partagent les affairistes nouveaux venus dans la banque, les assurances, le commerce international, les industries naissantes.
Les banques, les manufactures, le grand commerce.
Là sont de grands bourgeois, détenteurs de fortunes croissantes et qui ne tolèrent plus que l'aristocratie soit seule à disposer, grâce à la faveur du roi, des leviers de commande au gouvernement. Autre chose, un profond mécontentement règne dans la paysannerie, et la France de 1789 est paysanne, à 85%. Les agriculteurs supportent de plus en plus mal la perception par les châtelains de ces droits féodaux qui avaient pu avoir jadis leur justification. Les seigneurs protégeaient leurs manants contre les brigandages, mais qui avaient perdu leur raison d'être et se réduisaient à un pur et simple prélèvement autoritaire sur les ressources des laboureurs. Impôt local abusif ajouté aux impôts d'État et à cette dîme au surplus réclamée par l'autorité ecclésiastique. Les cahiers de doléances présentés aux États généraux montreront assez, et encore mieux certes les incendiaires de juillet, que la France rurale ne ressemblait guère à la gracieuse image que prétendra nous donner d'elle en 1929 l'ouvrage de Gaxot. L'ensemble était cossu, dira ce maurassien, à qui on doit cette autre trouvaille, la terreur communiste de Robespierre. Et à Paris, la foule urbaine, Paris compte alors quelque 600 000 habitants. Sur ce nombre, 100 000 environ vivent dans des conditions de sous-développement inférieures même à l'indigence classique. L'artisan, quand il travaille, et les jours obligatoirement chômés ne manquent pas, ces jours-là, il lui faut manger néanmoins et nourrir sa famille, gagne en moyenne 20 sols par jour. Sa nourriture de base est le pain. Depuis 1750, le prix du pain s'est élevé lentement, inexorablement. En juillet 1789, la miche de 4 livres coûte 14 sols. 14 sols sur les 20 du total, et le loyer, et les vêtements. En conséquence, en 89, dans Paris comme dans toutes les grandes villes, une armée d'émeutiers tout naturellement disponible.
Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense.
Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence.
Nom de Dieu.
Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces pougresses.
Tout cela, certes, a compté dans la ruine des finances. Mais la cause principale est ailleurs. Elle réside dans le recours systématique à l'emprunt pour fournir à l'État l'argent frais dont il a besoin, mais au prix d'un alourdissement perpétuel et fatalement à court terme insoutenable de sa dette. Telle est la politique simpliste, élémentaire de ce Necker, une première fois chargé du trésor, congédié, puis rappelé auprès de lui par le roi. Necker avait accompli ce facile miracle de permettre à la France, en Amérique, sa revanche militaire contre les Anglais. Une guerre est toujours coûteuse, sans augmenter d'un centime les impôts. En bienfaiteur, en ami du peuple, cet homme de génie, ce genevois d'ascendance prussienne, d'abord tenancier d'une pension pour étudiants, puis attiré par une manipulation bancaire et qui s'est bâti en peu de temps une fortune énorme. C'est un prince de la suffisance et de l'autosatisfaction empesée. Appelé à la direction du trésor, il s'est offert l'élégance de refuser tout traitement. La serviabilité généreuse est sa passion. Et Madame Necker, qui tient salon, va soulignant l'abstention rigoureuse que son mari s'imposa dans ses hautes fonctions. Il ne voulut plus rien savoir de ce qui se passait dans la banque Telusson-Necker, devenue d'ailleurs Telusson-Germany. Germany est un nom fictif, désignant le propre frère du ministre. Sa méthode est sans variante, emprunt, emprunt et encore emprunt. Sait-on, mais j'ai constaté la surprise de quiconque en est aujourd'hui avisé, qu'en plein drame financier face à la banqueroute, Necker, une fois de plus, encore et toujours, a proposé un emprunt. Quelle manne, chaque fois pour les banques, ces mesures quêteuses, cette mendicité de l'État. Necker l'ignore moins que personne, il est la providence des banquiers. Désemparé, presque éperdu, Louis XVI a reculé, pas à pas, depuis le 5 mai. Les états généraux sont devenus assemblée nationale, puis assemblée constituante, fin de l'absolutisme royal. Et Louis XVI, persuadé du droit divin des rois, a le sentiment qu'on veut l'obliger à un sacrilège. Sa femme, qui a toujours désapprouvé la réunion des états généraux, le pousse à user de la force. Qu'ils réunissent autour de Versailles et de Paris des régiments, sûrs, qu'ils les déploient, soudain en ordre de bataille, et nul ne pourra s'opposer à ce qu'ils congédient et dissolvent l'assemblée révolutionnaire. Le 12 juillet, Louis XVI congédie Necker, le remplace par Breteuil, ferme partisan de la réaction, et confirme ses instructions à Broglie, chef des armées. Résultat, le 14 juillet.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son.
Et après le 14 juillet, il a fallu désarmer les pauvres. C'est ce qu'Henri Guillemin explique. Il raconte également comment la noblesse est devenue défaitiste afin d'espérer le rétablissement du roi. Le récit se termine sur la fin de la Révolution, avec la chute de Robespierre,
Thermidor,
et l'arrivée de Napoléon qui réconfortera la bourgeoisie.
18 Brumaire.
Son mari se croyant vainqueur, son mari se croyant vainqueur, connaissait peu notre valeur, connaissait peu notre valeur. Va Louis Gros Paour du temple dans la tour. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Les Suisses avaient promis, les Suisses avaient promis qu'ils feraient feu sur nos amis, qu'ils feraient feu.
Je me permets aussi de vous rappeler ici une chose que j'ai déjà dite, à savoir qu'il ne faut pas se tromper sur ce qu'on appelle le mouvement de 89. Il y a le terrible Michelet qui nous a raconté toutes sortes de facéties là-dessus. Non, la vérité, c'est que le mouvement de 89, c'est un mouvement d'une nouvelle classe française qui, au cours du XVIIIe siècle, avait pris conscience de son existence. À savoir quoi? La richesse mobilière. La richesse immobilière, c'était la terre, quoi. C'était l'aristocrate et le clergé qui possédaient tout. Et au cours du XVIIIe siècle, une classe nouvelle s'était constituée. Richesse mobilière, c'est-à-dire quoi? Les banques, les manufactures, le grand commerce. Ben, ces gens étaient exaspérés de voir que c'était l'aristocratie qui possédait, comme on dit, les leviers de commande, et ils avaient décidé de s'en emparer. C'est ça le mouvement de 89. Ben, ça avait pas mal marché, mais il faudra attendre jusqu'à 1830 pour que le rêve qu'avait formé cette grande bourgeoisie de tenir en main le pouvoir se réalise. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants, quoi, une rixe de nantis entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrates et bourgeois. Ça marchait assez bien. C'était un vieux thème voltairien, on ne le sait pas assez. Vous savez, quand on dit Voltaire, on pense toujours à l'anti-religion, il ne s'agit pas de ça. Voltaire avait une idée précise en politique et en sociologie. Voltaire disait, un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne. C'est une morale d'entretenue. Ben, c'est exactement ce qui s'était passé jusqu'à 91. Puis voilà, premier accident, c'est le 10 août 92, commune insurrectionnelle de Paris, la plèbe qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, le roi qui est obligé de déchoir, enfin qui va disparaître. C'est un intermède odieux pour cette bourgeoisie qui était au pouvoir, et tout à coup, voilà le quatrième état, c'est-à-dire les pauvres gens, quoi, la cariatide, comme dit Victor Hugo, sur le dos desquels le festin des riches se passait. Ben voilà cette cariatide qui remue. Alors il faudra à peu près 2 ans pour en venir à bout. Il y aura deux opérations de redressement successives. Une première opération qu'on appelle Thermidor, vous vous rappelez, le 9 Thermidor, c'est-à-dire le 27 juillet 1994, où on fait tomber Robespierre. C'est insuffisant comme arrangement. Alors on fait un deuxième redressement qui s'appellera le 18 Brumaire, où cette fois un général qui s'appelait Napoléon Bonaparte va s'emparer de la République en criant bien sûr « Vive la République !» et va l'étrangler. Alors la bourgeoisie est assez contente. Il lui semble qu'elle va régner tranquillement, mais ce Bonaparte, Napoléon, empereur depuis 1804, va tourner mal. Trop de guerres. La bourgeoisie n'envoyait jamais ses enfants à la guerre.